Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur le destin de la première femme à avoir exercé les fonctions de première ministre en France, Edith Cresson. Pendant 30 ans, on a pu dire qu'elle était la seule femme à avoir occupé ce poste. Depuis la nomination d'Elisabeth Borne, évidemment, on ne le dira plus. Cela dit, pas de quoi pavoiser. Ça ne fait jamais que deux femmes à Matignon en l'espace de 63 ans, l'âge de la 5e République. Alors, en mai 91, quand Edith Cresson est nommée, c'est un événement majeur. Et dès qu'elle arrive, elle veut imposer son style, franc, direct, dynamique. Or, un peu plus de 10 mois plus tard, elle est poussée vers la sortie. Une majorité socialiste qui la soutient peu, ou pas du tout, une cote de popularité catastrophique, un échec cuisant aux élections régionales et cantonales, voilà pour les raisons officielles. Mais les attaques machistes et misogynes de la classe politique de l'époque nous laissent à penser que la condition de femme d'Edith Cresson n'est pas étrangère à son éviction. Et puis, détail qui en dit long sur la société de l'époque, on l'appelait Madame le Premier ministre, ce qui paraissait totalement naturel. Notre invitée aujourd'hui, Fiona Texer, consultante auprès d'élus depuis 9 ans. Elle est l'une des fondatrices de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, par ailleurs enseignante à Sciences Po. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Cet après-midi, j'ai nommé Madame Edith Cresson, Premier ministre. Madame Edith Cresson, qui a été successivement ministre de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, et qui a montré partout compétence et caractère, m'est apparue comme la plus apte à diriger ce gouvernement, puisqu'il s'agit d'atteindre l'objectif que j'ai fixé. Objectif 93. Mes chers compatriotes, moi, j'ai confiance. Si nous nous y mettons tous, ça marchera.
Le lendemain de cette annonce télévisée laconique, le 16 mai 1991, le journal Libération titre en première page « Et Dieu nomma la femme ». Dieu, dans cette France de 1991, c'est François Mitterrand qui dirige le pays depuis 10 ans. La femme, c'est Edith Cresson, la voilà matignonne. Quelques jours avant cette annonce, elle reçoit un coup de téléphone. C'est François Mitterrand, il veut déjeuner avec elle. Cela fait des semaines que les deux s'entretiennent régulièrement. Lors de ces rendez-vous, le président taille des croupières à son premier ministre, Michel Rocard, qu'il déteste, c'est de notoriété publique depuis des lustres. Ce jour-là, il lance Edith Cresson. Eh bien voilà, Rocard va s'en aller. Et j'ai pensé que vous pourriez prendre cette fonction à Matignon. Edith Cresson ne se réjouit pas. Et rétorque même, en imaginant tous les problèmes à venir, vous savez, ils seront furieux, faisant allusion à tous les caciques du Parti Socialiste, essentiellement des hommes. Bon, le chef de l'État fait semblant de ne pas comprendre. Dans le documentaire François Mitterrand, le roman du pouvoir de Patrick Rothman, Jean-Louis Bianco et Hubert Védrine, proches conseillers de François Mitterrand, reviennent sur les coulisses de cette nomination.
Il a consulté, mais c'est une idée de lui tout seul. Et certainement contre l'avis de ses conseillers et de ses collaborateurs qui ne voyaient pas Edith Cresson dans cette fonction.
Son raisonnement de l'époque, c'est donc 10 ans après le début, c'est la recherche du volontarisme.
Quelqu'un qui va secouer, qui va bouger, je vais me sentir alors en pleine harmonie avec elle, alors qu'avec Rocard, c'était pas facile, on ne s'entendait pas pour pas dire pire.
Mais aussi, François Mitterrand entend redynamiser son deuxième mandat et laisser une trace dans l'histoire en étant le premier président de la République à nommer une femme première ministre. Dans le documentaire « L'enfer de Matignon », réalisé par Philippe Colli, Edith Cresson confie.
Son argumentation, c'était la suivante, c'était « Je ne veux pas quitter mes fonctions de président de la République avant qu'une femme ait occupé ce poste de premier ministre. » Il m'avait tenu un petit peu ce langage... plusieurs années auparavant, lorsqu'il m'avait proposé en 81 le ministère de l'Agriculture, en me disant que ce serait une provocation de mettre une femme à l'agriculture, un milieu conservateur, plutôt assez misogyne, il faut bien dire. Et je l'avais accepté aussi un petit peu pour ça.
coup politique. Edith Cresson sait très bien que sa nomination sera largement commentée et qu'elle devra faire face à de nombreuses attaques. Mais cette femme politique n'est pas du genre à baisser les bras. Et puis, Matignon, ça ne se refuse pas, encore moins, quand c'est une proposition de François Mitterrand dont elle est une fidèle de la première heure. ...1965, première élection présidentielle au suffrage universel. François Mitterrand est le candidat unique de la gauche. Son équipe de campagne, c'est son parti politique, la Convention des institutions républicaines, petit parti aux grandes ambitions, tout au service d'un homme. Parmi les militants de base, une trentenaire vient de se lancer en politique. Elle s'appelle Edith Cresson. Elle est mariée, mère de deux enfants et diplômée de HEC. C'est par l'intermédiaire d'une camarade de promotion, Paulette de Crène, très proche de François Mitterrand, qu'Edith Cresson va rejoindre l'équipe de campagne. Elle prend 3 semaines de congé pour venir taper à la machine, faire des paquets d'enveloppes, coller des timbres. Edith répond aussi au téléphone et aux gens qui demandent que ferait le candidat Mitterrand dans telles circonstances. Eh bien, elle invente des réponses, car le programme du candidat n'est pas encore très détaillé. Bref, on improvise. Et ça marche. À la surprise générale, François Mitterrand met le général de Gaulle en ballotage. Au second tour, il parvient à réunir 44,8% des voix devant la statue du commandeur, une performance exceptionnelle et, pour le général, un sacré camouflet. C'est lors des législatives de 1967 qu'Edith Cresson rencontre réellement François Mitterrand. Il la remercie pour sa contribution. Edith tombe sous le charme politique du leader de la gauche. Elle dira, d'ailleurs, « Aucun autre n'aurait pu susciter en moi le sens du sacrifice comme il l'a fait. Il m'est arrivé de me dire, dans un de ces vagabondages de la pensée qui vous entraîne parfois, que si je commettais un crime, c'est à lui seul que j'irais le confesser. Elle a trouvé son dieu, Mitterrand, et un culte, la politique. » Dans ce livre, Edith Cresson, la femme piégée, Elisabeth Chemla brosse le portrait de la future première ministre.
François Mitterrand sait qu'un jour, Edith Cresson sera parmi celles sur lesquelles il pourra le plus compter. Outre son caractère, elle a un atout décisif pour cette esthète, sa féminité si naturelle qui devrait plaire. C'est un beau brin de fille, charpente solide et visage plein, qui attire par ses contrastes. Les paupières lourdes évoquent le froissement des dentures, le rire en cascade est pur comme l'innocence. La voie placée entre Faubourg et Saint-Honoré passe sans crier gare de l'alcôve au marché et du marché au salon. Elle retrousse ses manches en bon bûcheron, mais croise ses jambes, comme une star. Elle a le cœur qui flanche en écoutant Piaf, récite à ses filles des poèmes de Hugo ou des tirades de Britannicus. Mais impulsive, elle invective, agresse, défend bec et ongles ce qu'il y a à défendre et crèverait volontiers les yeux de ceux qui attaquent ses idées ou son modèle.
En 71, elle adhère au Parti Socialiste tout juste créé au Congrès d'Épinay. 4 ans plus tard, François Mitterrand la propulse secrétaire nationale du parti. La même année, en 75, c'est le baptême des urnes. Le PS la parachute dans la 2e circonscription de la Vienne lors d'élections législatives partielles. Personne au PS, notamment Michel Rocard, n'a voulu aller livrer ce combat électoral perdu d'avance. Dans une circonscription rurale acquise à la droite et face à un ministre, Pierre Rabelais en l'occurrence, aucune chance. François Mitterrand dit alors à Edith Cresson, c'est une candidature de témoignage, 3 petites semaines de campagne, histoire de se faire la main sur le terrain. Comme prévu, Edith Cresson est défaite, mais sur un score honorable. Elle bat même le ministre Giscardien en nombre de voix dans la ville de Châtellerault. Et puis elle est séduite par ses habitants à l'esprit contestataire qu'elle partage. Elle ne lâchera plus cette région qui deviendra son fief. En 1977, elle est élue maire de Turet, petite ville de la banlieue de Châtellerault. 2 ans plus tard, elle fait son entrée au Parlement européen. Au Parlement, justement, elle retrouve un ami de longue date, Jean de Lipovski, qui siège pour le RPR. Et lors des voyages en avion entre Strasbourg et Paris, elle se lie avec un autre député européen de droite, Jacques Chirac. En octobre 80, un dîner est organisé par Lipovski chez Edith Cresson. Au programme, une rencontre entre le premier secrétaire du PS et le patron du RPR. Oui, c'est ce soir-là que François Mitterrand et Jacques Chirac s'entendent pour faire tomber Giscard en mai 81. Le but de la manœuvre, pour le leader socialiste et pour le leader gaulliste, c'est que le premier soit élu et que le second devienne le chef de l'opposition. Gagnant-gagnant, quoi. Entre les deux tours, Jacques Chirac fait passer des consignes pour faire élire François Mitterrand. À ce propos, Valéry Giscard d'Estaing raconte qu'un jour, entre les deux tours, en 81, il a appelé une permanence du RPR. Maquillant sa voix à l'aide d'un mouchoir, il a dit au militant, ou à la militante qui a pris son appel, « Bonjour, je suis électeur gaulliste. Que dois-je faire ? Voter Giscard ?»« Non, lui répond la voix. Il faut voter Mitterrand. » Comme ça, c'est clair. Le pacte Chirac-Mitterrand existe bel et bien.
Place de la Bastille, la fête populaire. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir.
À son arrivée au pouvoir, en mai 81, François Mitterrand propose un poste explosif à Edith Cresson, l'agriculture. Une nomination perçue comme une provocation, si ce n'est une déclaration de guerre pour les syndicats agricoles, FNSEA en tête. Mais Edith Cresson rend coup pour coup, comme lors de cette rencontre avec des agriculteurs le 2 février 1982 dans une exploitation du Calvados.
Si, et des fois on se le demande si votre mission n'était pas celle de saborder le navire, dans ce cas nous vous disons partez, sinon les moussaillons que nous sommes, eh bien avant de périr vous mettrons par-dessus bord.
Loin de vouloir diviser, ce qui serait absurde, les agriculteurs, je cherche au contraire à les rassembler tous. Les petits comme les grands, parce que tout le monde a le droit à la parole, et qu'à la veille de ce combat très difficile à Bruxelles, les agriculteurs français doivent être au coude à coude, de façon à aider le gouvernement à remporter un succès. Nous sommes au travail, il ne faut pas que l'équipage ait peur, hein. C'est dans les tempêtes qu'au contraire il faut que chacun soit à sa place, fasse son boulot.
À l'issue de ce dialogue houleux, 300 manifestants refusent de se disperser. Face à cette foule d'agriculteurs en colère, la ministre se retrouve dans un coin de cour boueux. Protégée par les gendarmes, elle est exfiltrée dans un verger, d'où elle quitte l'exploitation agricole en hélico. Lors d'une réunion de la FNSEA, la plus grande fédération syndicale agricole, on déploie une banderole sur laquelle on peut lire, écrit en lettres rouges, un message d'un autre temps, même pour les années 80. Edith, on t'espère meilleur au lit qu'au ministère. Ce à quoi l'intéressé réplique, ça tombe bien que je sois ministre de l'Agriculture, puisque j'ai affaire à des porcs, je vais pouvoir m'occuper de vous. Une variante de balance ton porc, en quelque sorte. Et de toute façon, que ce soit face aux agriculteurs français ou face à ses homologues étrangers, la ministre de l'Agriculture ne se laisse pas faire. À titre d'illustration, l'un de ses collaborateurs, Jean-Philippe Adjé, raconte un épisode tendu lors de négociations avec les soviétiques à Moscou.
Edith Cresson, bureau du ministre du Commerce extérieur qui s'appelait Patolitchev. Et là, salle, méchant éclairage, les soviétiques renaclent. Edith Cresson face à Patolitchev le regarde et lui dit « Voilà ». Il est 18h15, notre départ de cette salle est prévu à 19h15 pour aller au Bolchoï pour la soirée. Si dans une heure, cet accord n'est pas signé, je me lève, je téléphone à Pierre Mauroy, notre Premier ministre, je lui dis que les relations sont rompues avec vous. La délégation soviétique un peu interloquée se lève, sort de la salle. On a fumé pendant cette heure beaucoup, beaucoup, beaucoup de cigarettes. Edith était impassible, n'a pas bougé. Elle avait l'air détendue. Ils sont revenus une heure plus tard, ils ont signé. On est quand même arrivé un petit peu en retard au Bolchoï.
La négociation forceps pour arracher un accord, c'est sa spécialité. À ses collaborateurs, Edith Cresson a l'habitude de dire « Emballez-moi bien, je vais les finir ». Comme le dira plus tard François Giroud, plus ou moins bien inspiré sur ce coup-là, c'est une femme qui en a. Ah bon, le courage sera un marqueur masculin. Sur le plan électoral, Edith Cresson montre sa capacité à mener des campagnes et surtout à les gagner. En 81, portée, il est vrai, par la vague rose, elle est élue députée de la Vienne. En 82, conseillère générale du même département. Et en 83, lors de la débâcle du PS au municipal, elle est la seule socialiste à ravir une ville de plus de 30 000 habitants à la droite. C'est Châtellerault, la même où 8 ans plus tôt, elle livrait son premier combat électoral. Son fief est désormais bien verrouillé. Côté gouvernement, après son passage à l'agriculture, Édith Cresson pose ses valises au ministère du Commerce extérieur, où elle déploie sa vision de l'avenir et sa priorité. Il faut assurer la compétitivité des entreprises européennes face aux américaines et aux japonaises. Ce leitmotiv ne la quittera jamais. En 88, après la réélection de François Mitterrand, elle devient ministre des Affaires européennes. Mais en désaccord avec la politique du Premier ministre sur ce terrain, elle claque la porte en octobre 90. Édith Cresson commence alors une carrière dans le privé. Mais 2 mois après son départ de la vie politique, elle reçoit le fameux appel de François Mitterrand.
Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes chances, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'ami comme toi. Non, 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 pas d'autre âme comme toi. Je n'ai pas d'ami comme toi. Oh non, 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 pas d'autre âme comme toi. Comme toi. Je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Comme toi. J'ai encore beaucoup à découvrir, mais dans ce tour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi.
Mai 91. Pour nommer Édith Cresson et débarquer son ennemi juré Michel Rocard, François Mitterrand attend la fin de la guerre du Golfe. Et il choisit une date symbolique. 10 ans pile après son élection de 1981. Avec l'envie de déclencher le même enthousiasme que celui qu'avait provoqué en 88 la nomination de Rocard, très appréciée des Français. 8 mois après sa démission des Affaires étrangères, Édith Cresson pose dans la cour de Matignon pour la passation de pouvoir. Selon les mots de Rocard, ce fut aimable et bref. On imagine l'ambiance. Devenue première ministre, Édith Cresson doit faire face à une première attaque, venue celle-là du député UDF François Daubert, qui réagit devant les caméras à sa nomination.
Là, vraiment, on est dans un système incroyablement monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Édith Cresson. Il y a un parallélisme certain.
Édith Cresson réagit sur le plateau de télé de France 2 pour sa grande première en tant que chef du gouvernement.
Monsieur Daubert,
200 ans après la Révolution française, vit toujours dans un boudoir. Bon. Qu'est-ce que vous voulez, chez moi, à Châtellerault, où les électeurs votent majoritairement pour moi, à de nombreuses élections, j'imagine que ça doit les surprendre. Je suis peut-être la favorite, mais la favorite de mes électeurs.
Si Élise Cresson balaye avec habileté les attaques sexistes devant les caméras, en coulisses, elle fait face à un premier problème. François Mitterrand ne lui laisse pas les mains libres pour la composition du gouvernement. Elle l'explique dans le documentaire « L'enfer de Matignon » réalisé par Philippe Colli.
Je n'ai pas pu non plus constituer le gouvernement que j'aurais souhaité, puisque un certain nombre de ministres m'ont été imposés par le président de la République. Par exemple, il avait une petite liste à côté de lui sur son bureau, et il m'énumérait des noms de ministres dont il voulait qu'ils soient dans le gouvernement. Il m'a même dit « ça serait bien de prendre une petite beurre qui s'appelle Kofi Annan ». Alors, en sortant de son bureau, j'ai appris que c'était pas une petite beurre, mais c'était un homme et qu'il était d'origine africaine. Il a été très bien, j'ai pas du tout eu à m'en plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que la liste qu'il avait à côté de lui, manifestement, lui était soufflée par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Laurent Fabius, qui lui avait déjà donné les noms qu'il souhaitait.
Laurent Fabius, un homme dont elle se méfie depuis sa première rencontre au milieu des années 70. À l'époque, elle dit à François Mitterrand, c'est un opportuniste. Mais si Élise Cresson n'avait que Fabius contre elle, en réalité, cette femme politique qui ne fait partie d'aucun clan doit faire face à toutes les manœuvres des barons socialistes. Et de fait, la majorité des ministres importants gardent leur place dans le gouvernement. Pierre Bérégovoy, Roland Dumas, Lionel Jospin, Pierre Joxe, Jack Lang. Deuxième problème, Élise Cresson ne dispose plus de coalition parlementaire avec le centre droit. La nouvelle majorité gouvernementale est fragile, composée seulement de députés PS et de radicaux de gauche. À l'Assemblée, elle ne peut compter que sur 48% des sièges, ce qui, par définition, ne fait pas une majorité pour faire passer telle ou telle loi, telle ou telle réforme. Une semaine après sa nomination, elle se présente devant les députés pour son discours de politique générale. Au Palais Bourbon, elle évoque un sursaut indispensable pour l'économie du pays et son désir de faire réussir la France dans l'Europe de 1993 et dans le monde de l'an 2000. Habillée d'un tailleur strict, très bon chic bon genre, Élise Cresson interpelle les élus de tous les partis pour élargir sa majorité.
Ma méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous, sans préjugés. Mon action passée est là pour le démontrer, s'il en était encore besoin. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges, sans que personne ait à renoncer à ce qu'il est.
Après elle, Charles Millon pour l'UDF, Edmond Alfandéry pour l'Union du Centre et André Lajoigny pour le PCF viennent manifester leur défiance envers la nouvelle première ministre. Il faut dire que sa prestation est moyenne. Mitterrand lui-même jugera ce discours long et ennuyeux. Dans cette cage au lion, Élise Cresson est aussi victime de nombreuses attaques sexistes, comme en témoigne Denis Cachot, député PS, dans le documentaire « Femmes et politiques » réalisé par Maurice Dugosson.
J'ai entendu des députés derrière moi dire « elle est pas mal foutue », etc. « Crois-tu qu'elle a un slip ?» Je me suis retournée pour leur demander si eux, ils en avaient un.
Oui, j'ai entendu ça, mais je veux dire, dans un flot d'autres ordures du même genre. Donc, je veux dire, je n'ai pas particulièrement fait attention à cette phrase, surtout après un déjeuner bien arrosé. Ils sont un peu congestionnés, et alors à ce moment-là, la vraie nature, évidemment, ressort. Donc, je peux dire que cette phrase-là, je l'ai entendue. Elle ne m'a pas spécialement désarçonnée, parce que j'avais une très, très grande habitude de phrases de ce genre. Et je veux dire, là, au moins, c'était direct. Souvent, c'était beaucoup plus insidieux.
Élise Cresson est armée, blindée, même contre les attaques sexistes et misogynes qu'elle subit depuis le début de sa carrière politique. Dans l'arène de l'Assemblée, un peu plus d'un mois après son arrivée à Matignon, une passe d'armes a lieu entre elle et un ancien Premier ministre qu'elle connaît bien, Jacques Chirac. Après une intervention où le député RPR reprend les arguments du Front National, notamment sur l'immigration, Élise Cresson prend le micro et met le feu à l'Assemblée.
J'avais le sentiment de ne pas entendre Jacques Chirac, mais Jean-Marie Le Pen.
Et l'Assemblée bascule, brouhaha, tohu-bohu, charivari. Malgré cela, Élise Cresson va plaider en faveur du dialogue dans les banlieues.
« Quelques jours plus tard, à Orléans, Jacques Chirac persiste et signe ce qui reste peut-être sa pire déclaration, d'autant plus qu'elle ne lui ressemble pas. C'est là qu'il évoque le bruit et l'odeur à propos des immigrés. L'expression reste aujourd'hui gravée dans la mémoire des Français. Mais il n'est pas le seul à choquer le pays. Edith Cresson, elle aussi, va se fendre de quelques formules maladroites. 4 jours après sa prise de fonction, elle s'illustre avec cette phrase « La bourse, j'en ai rien à cirer ». Puis le 16 juin, un quotidien britannique sort une petite bombe en publiant une interview datant de 1987, jamais publiée, où Edith Cresson déclare que 25% des Américains, des Anglais et des Allemands sont homosexuels. Avant d'ajouter, c'est un problème d'éducation et je considère ça comme une sorte de maladie. Aïe. Quelques jours plus tard, le Herald Tribune rapporte une autre déclaration où la première ministre considère que les Japonais travaillent comme des fourmis. En juillet, harcelée par des questions sur l'immigration, elle est poussée à la faute et répond très maladroitement sur la question des vols charters. Vous appelez ça des charters? Mais ce ne sont pas des charters. Parce que des charters, c'est des gens qui partent en voyage, en vacances, avec des prix inférieurs. Là, ce sera totalement gratuit. Chômage, déficit de la sécurité sociale, violences urbaines, problèmes si profonds qu'ils sont d'actualité 30 ans plus tard, plus les déclarations à l'emporte-pièce, ça fait beaucoup et les attaques ne vont pas cesser. Dans les arcanes du pouvoir, disons-le tout net, nombreux sont ceux qui veulent sa peau. Mais Edith Cresson peut compter sur le soutien d'un personnage qu'aucun commis de l'État ou autre professionnel de la politique n'ose contredire, suivez mon regard. Et d'ailleurs, il le fait savoir lors de la très monarchique interview du 14 juillet.
Eh bien, Cresson, il a une langue vivante.
Il aime qu'on mette les pieds dans le plat, vous pensez, le peuple.
Il a massé.
Mais le populisme...
Et il est important que le Premier ministre soit cette femme de courage, pratique, ayant le sens des choses concrètes, ayant du bon sens, de l'énergie et voulant de l'action. Voyez-vous, quand on change les habitudes, il faut changer les habitudes d'un certain nombre de Français pour gagner la bataille de l'Europe. Quand on change les habitudes, ça dérange. Et c'est vrai que Mme Cresson dérange. Alors il y a pas mal de gens qui sont contre, mais moi je suis pour.
Le problème, c'est que les critiques contre sa première ministre entraînent le président dans sa chute côté sondage. Il faut 2 mois seulement pour que le charme de la nouveauté s'estompe aux yeux des Français. Pour la première fois en 10 ans de présidence, les courbes de confiance, pas confiance, se croisent pour François Mitterrand. Bon, ce n'est qu'un sondage, mais dans une démocratie d'opinion, ça compte. Et ça affaiblit forcément. En tout cas, s'il fallait sauver la soldate Cresson, l'interview du 14 juillet ne fonctionne pas. Pire. Quelques jours plus tard, la chaîne américaine ABC diffuse des propos tenus par Edith Cresson. Dans l'entretien, elle réitère ses déclarations sur les Anglais et les Japonais. Entre pièges tendus par les journalistes et franc-parler, le cocktail est explosif. Edith Cresson ne maîtrise pas sa communication, ne cherche pas à le faire et les effets sont désastreux.
Allez, venez les gars, on va vous montrer une petite danse qui va vous faire gigoter les jambons et vous remuer le lard.
D'autant que depuis le début de son mandat, une émission de télévision censée faire rire, le Bebel Show, sommet de bêtises et de vulgarités, participe à la destruction de son image. Edith Cresson est représentée sous la forme d'une panthère surnommée Amabot. Dès la première émission, devant 10 millions de téléspectateurs, Amabot répète tout ce que dit la grenouille Guerre Mitterrand. Les Français qui connaissent assez peu Edith Cresson la découvrent, personnage falot qui n'a rien à dire, sauf ce que le président dit lui-même et qu'elle relaie fidèlement. Le personnage de Charles Pasqua, le morse pas de quoi, déclare dès sa première émission « Elle est con comme une valise sans poignée. Si on est devenu un pays de jobard, on a le Premier ministre qu'on mérite. » Et voilà la vulgarité et l'acrimonie qui s'allient au machisme. C'est bien connu et c'est presque intégré. Mais là, ça va vraiment très loin. Le Bebel Show, le bien nommé finalement, va jusqu'à présenter le Premier ministre, la Première ministre, comme le jouet du dieu Mitterrand, mi-putain, mi-crétine. Elisabeth Chemla, auteure du livre Edith Cresson, la femme blessée, détaille sur France 3 la nature des attaques contre elle.
Elle a été attaquée par le Bebel Show,
en tant que femme, donc de façon raciste. Et si vous voulez, je crois que j'ai fait un énorme travail là-dessus, c'est-à-dire que j'ai repris, sur les 10 mois et demi, le script jour par jour du bébé.
Alors, qu'est-ce que ça donne ?
Ça donne des horreurs que je suis navrée d'être obligée de répéter. Un premier ministre de la France qui est traité de tromblon, de délabré du bulbe, qui, quand elle essaye de combler le trou de la sécurité sociale qu'elle trouve en arrivant, se voit dans le bébé de chaud, s'entend dire dans le bébé de chaud, va reboucher ton trou, qui est traité de vampire, qui est traité de sorcière, à qui Roucas propose de la violer.
Entre dérapages verbaux et caricatures dans le bébé de chaud, l'image d'Edith Cresson est désastreuse. Cette femme politique qui se moque des conseillers en communication voit plonger sa cote de popularité. Selon elle, ce sont les résultats qui priment, peu importe la personne. Mais le temps des réformes, le temps politique, correspond rarement au temps médiatique. Pris dans une spirale infernale, ses volontés de réforme se retrouvent bloquées par la lenteur des administrations, mais aussi par un homme qui voulait sa place, Pierre Bérégovoy. Et Béret détient un poste clé. Il est ministre de l'économie, des finances et du budget. Autrement dit, il est capable de bloquer ou de ralentir n'importe quelle mesure ou réforme. Edith Cresson l'aurait baptisé l'enflure de Bercy. Situation qu'elle explique dans le documentaire L'Enfer de Matignon, réalisé par Philippe Colli.
Il faut se rendre compte de ce que c'est que l'extraordinaire forteresse des finances. Avec le ministre, bien sûr, mais avec toute l'administration qui est autour. Les Français ne le savent pas, ils croient toujours que c'est le président de la République et le Premier ministre qui font la politique de la France. Bon, a priori, c'est quand même le Premier ministre qui a la capacité d'arbitrage. Mais ayant cette administration très puissante des finances très souvent contre moi, c'était difficile. Et d'autant que la presse se faisait l'écho du mécontentement de Bérégovoy, hein, puisqu'il recevait les journalistes régulièrement tous les mardis matins au cours d'entretiens pendant lesquels... Il exprimait le plus vif mécontentement d'une façon permanente.
Pas une semaine ne se passe sans que les barons socialistes alimentent la presse pour descendre la première ministre, qui de surcroît a le plus grand mal à intéresser François Mitterrand aux réformes économiques qu'elle envisage. Elle confiera plus tard, assez vite j'ai senti que le président me lâchait. Il faut dire aussi que les dossiers économiques qui me passionnaient le laissaient de marbre. Non seulement il était incompétent en la matière, mais il s'en vantait. Seul comptait pour lui la grande politique, la politique étrangère. À cela s'ajoutent les visiteurs du soir qui se succèdent dans le bureau du président pour lui dire que Cresson va faire fuir des députés du groupe socialiste. Selon François Hollande, lui-même député PS à l'époque, tout cela n'était qu'une intoxication de Laurent Fabius. Les députés n'avaient aucune intention de quitter la majorité. Mais devant tous ces éléphants qui le pressent pour avoir la peau d'Edith Cresson, François Mitterrand finit par céder. Il déclare en privé « Si je garde Edith, ils vont la tuer ». Les mauvais résultats électoraux du PS aux élections cantonales et régionales de mars 92 feront le reste. C'est l'occasion de mettre un clap de fin au plus court passage à Matignon de l'histoire, 10 mois et 18 jours. Partagée entre tristesse et colère, Edith Cresson est décidée à déverser ses ressentiments dans sa lettre de démission. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la missive, jugée trop agressive, n'est pas rendue publique. Mais Edith Cresson fait fuiter au journal Le Monde la phrase qu'elle juge essentielle, celle-là. J'ai toujours estimé que pour remplir pleinement ma mission, je devais disposer d'une équipe gouvernementale restreinte, plus soudée et du soutien explicite des responsables du PS. Je constate que ces conditions ne peuvent être remplies. Edith Cresson estime que François Mitterrand l'a utilisée pour être à jamais le premier dans l'histoire à avoir confié le poste de Premier ministre à une femme. Et pendant plus d'un an, elle refuse toutes ses invitations. Coup de froid. Et puis, quelques années plus tard, ou plus tôt, c'est la libération par la parole pour Edith Cresson. Elle vide son sac, ça fait du bien. À commencer par Bérégovoy.
Tout le monde le sait, ça. Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Lui vivait dans l'idée qu'il voulait devenir Premier ministre depuis 20 ans.
Les classiques du PS.
Il est tout à fait vrai que la phallocratie dominante survit dans les partis de gauche. Je connais bien le Parti socialiste, mais pour ce que j'ai pu voir, elle survit aussi largement au Parti communiste.
Les femmes en politique.
Les femmes sont des êtres humains, douées d'un cerveau. Il ne faudrait quand même pas l'oublier.
Conclusion ?
C'était un cauchemar.
91 à 92. Ouais.
91 à 92,
c'était un cauchemar du premier au dernier jour, bien sûr.
On partage plus de secrets, on ne partage plus nos joints. On se dit plus trop grand chose quand on se voit. On s'y brûle plus les doigts et devant tout ce qui nous sépare, sans plus.
Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire d'Edith Cresson, dont nous allons parler avec Fiona Texer, notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Consultante auprès d'élus depuis 9 ans, vous êtes l'une des fondatrices de l'Observatoire de violences sexistes et sexuelles en politique, par ailleurs enseignante à Sciences Po, et vous animez un podcast intitulé « Il n'y a pas mort d'homme », disponible sur la plateforme Binge Audio depuis le 29 octobre dernier. Et dans le premier épisode, vous avez interviewé longuement Edith Cresson. Est-ce qu'elle est pour vous la victime emblématique du machisme tranquille de notre vie politique à l'époque des faits ?
Edith Cresson, c'est celle qui permet aux Françaises et aux Français de prendre conscience du sexisme en politique, puisque dans les années 90, il y a encore très peu de femmes qui sont parvenues à pénétrer le monde politique. Et de fait, les rares qui s'y risquent sont victimes d'un déferlement d'injures sexistes qui est à peine imaginable aujourd'hui. Et le fait que ces femmes-là puissent en témoigner, ça permet aussi d'alerter sur ce qui se passe dans un milieu qui est résolument masculin et qui s'est construit en fait strictement sans les femmes jusqu'en 44, le moment où les femmes obtiennent le droit de vote, et en réalité quasi exclusivement sans elles jusqu'à la fin des années 90, quand les lois de parité sont enfin adoptées.
Simone Veil, qui craque sur les bancs de l'Assemblée, donc plus de 10 ans avant, c'est pour le traitement que les députés hommes lui réservent, parce qu'elle est une femme, ou c'est simplement l'opposition politique des anti-avortements, à votre avis ? C'est certainement les deux.
Il faut s'imaginer si les députés qui sont à l'origine de ce comportement se seraient permis la même chose avec un député homme, et on n'a pas d'autres exemples de cette violence-là. On n'a pas d'attaque sur le physique, on n'a pas d'attaque sur la voix, on n'a pas d'attaque sur la façon aussi de montrer sa féminité. On voit rarement autant de commentaires sur les costumes des hommes, est-ce qu'ils portent des bijoux, est-ce que ce sont des bons pères de famille, etc. Ce sont des critères qui ne sont pas retenus dans le commentaire sur les hommes politiques, et donc de fait, oui, il y a une part de sexisme qui est énorme dans ce type d'attaque.
Ce qui est particulier avec Edith Cresson, c'est qu'elle a la franchise de dire à quel point elle a souffert. Elle n'a jamais varié dans son discours jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez interviewée très récemment. Je l'avais interviewée il y a 2 ans, donc récemment également. Il y a toujours cette colère chevillée au corps.
C'est une forme de colère qu'on retrouve chez très peu de politiques de sa génération. Mmh. C'est vrai que nous, quand nous l'avions rencontré avec la journaliste Hélène Goutani l'été dernier, il y avait chez elle une amertume et une colère quasiment intacte. On avait l'impression qu'elle nous racontait le Conseil des ministres qui s'était passé 15 jours plus tôt, vu la véhémence de ses propos et puis aussi l'amertume qu'elle en concevait. On ne trouve pas ça chez les gens de cette génération-là. Et ça prouve aussi que c'est quasiment une plaie qui ne s'est jamais refermée et une injustice qui reste encore très très profonde.
Mmh. Alors les dérapages, la bourse, les japonais, les fourmis, les homosexuels anglais, les charters, finalement, tout cela émane d'une croyance d'Edith Cresson, une conviction hein, plutôt qu'une croyance, selon laquelle ce qu'on fait est plus important que le faire savoir. Et tout cela n'est pas fin, car cette conviction, l'idée qu'elle se fait de la politique, trouve ses racines dans la belle histoire que je vais me permettre de vous raconter maintenant, une petite minute, mais c'est important, ça dit tellement de choses d'Edith Cresson et de la façon dont d'autres pourraient faire de la politique. Vous savez qu'il y a une pièce de théâtre en ce moment, qui s'appelle Affaires Sensibles, qui a été jouée 5 mois au Tristan Bernard, qui est en tournée, qui sera au Festival d'Avignon du 7 au 31 juillet au Théâtre de la Scala. C'est dit. Mais parmi les 3 tableaux que présente cette pièce, il y a l'histoire d'Edith Cresson sur un texte qui se nourrit exclusivement des confidences qu'elle nous a faites juste avant la création de la pièce, il y a 2 ans, jour pour jour, c'était le 2 juin 2020. Et voilà ce qu'elle nous dit, et qui ne figure pas dans les livres consacrés à Edith Cresson. C'est un propos très fort que je vous livre ici. « Petite, raconte-t-elle, j'ai eu de très profondes blessures. Je vivais en Haute-Savoie chez un couple. Lui était dans la résistance, Marcel Lens. » C'était un homme extraordinaire. Nous habitions un chalet de bois, les marches faisaient du bruit, et quand il rentrait à 4h du matin, je l'entendais, et je devinais très bien ce qu'il faisait, pourquoi il sortait la nuit. Parfois, quand j'avais 7 ou 8 ans, il m'amenait un vélo dans la montagne, on chantait, c'était joyeux, et puis on s'arrêtait quelque part. Il me disait « Reste là, je vais venir te chercher ». Et effectivement, il finissait par revenir. Et je comprenais qu'en fait, je lui servais d'alibi pour faire ce qu'il avait à faire. Mais un jour, il n'est pas revenu. Alors les journalistes, le bébé de chou, Béré Gauvois. Marcel Lens, lui, m'a appris qu'au fond, faire quelque chose d'utile, mais dont on n'attend rien en retour, ni gratification, ni reconnaissance, c'est ça qui est magnifique. Étant résistant, lui, tout ce qu'il a fait pour la France, il l'a fait en cachette, anonymement. Mais elle a fait son devoir, il en est mort, à Mauthausen. C'est ça, avoir le sens de la France, le sens de la nation. Lui, il l'avait, et il me l'a transmis. Quelle leçon tout de même. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça dit quelque chose de l'époque. C'est vrai que Edith Cresson a traversé le XXe siècle et que ses modèles, ses références et ceux qui ont guidé son action en politique, ce sont des figures qui remontent à la résistance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi dans l'autre sens, en aval, ce qu'elle nous laissera. Est-ce qu'il y aura des femmes qui un jour se revendiqueront de cet héritage et est-ce qu'un jour sa figure à elle sera réhabilitée ?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi le manque de concessions qu'elle a. Qu'elle voulait faire à la com politique. Elle n'aimait jamais entrer dans la com politique, dans les enjeux et les petits jeux égotiques, parce qu'elle a vécu ça et qu'elle fait la part des choses. C'est ça qui est fort aussi. On l'a critiquée en disant elle maîtrise pas sa communication. Évidemment, quand elle a vécu ça, elle sait où on peut aller en politique, et c'était dur pour elle. Et ça, c'est pas forcément un débat genré pour le coup.
Non, mais elle s'est toujours montrée dans l'action, dans le faire. Elle a exercé de nombreuses responsabilités, hein, puisqu'elle a été maire, elle a été conseillère générale, on disait conseillère générale à l'époque, elle a été plusieurs fois ministre, députée européenne. Et quelque part, ce qu'elle voulait briller par son action, par son action de terrain, son action en tant que ministre, et pas par les petites phrases, les petits jeux de la politique politicienne et les confidences de la rive gauche. Ça ne l'intéressait pas.
À la même époque, il y a le fameux bruit et l'odeur de Chirac, dont on a pardonné beaucoup plus facilement le dérapage, parce que c'est un homme, à votre avis, aussi. Ça joue aussi.
Je ne suis pas sûre qu'on ait jamais pardonné à Jacques Chirac oui. Cette petite phrase.
Oui, bah certains l'ont pas pardonné, évidemment, mais c'est voilà, ça n'a pas poursuivi tant que ça.
En tout cas, il a réussi à réhabiliter une image et à faire valoir d'autres arguments ou d'autres qualités, alors que c'est vrai qu'Edith Cresson retiendra aussi des dérapages verbaux et une forme d'homophobie qui est à la fois révélatrice de l'époque et aussi d'à quel point c'était encore des sujets compliqués et de fait condamnables.
Hein. Edith Cresson n'était pas prête pour le poste de Premier ministre, on dit les mauvaises langues, ou était-ce le monde politique qui n'était pas prêt à laisser une femme diriger le pays, finalement?
Je pense que c'est le monde politique qui n'était pas prêt, puisque dans les sondages d'opinion, les Français n'étaient pas du tout hostiles, déjà à l'époque, à la nomination d'une femme. La difficulté, c'est comment elle a été reçue au sein de la classe politique. Lorsqu'elle est nommée Première ministre, l'Assemblée nationale, c'est un monde qui se vit encore quasiment en non-mixité. Plus de 90% des députés sont encore des hommes. Ça veut dire que quand elle s'avance devant eux lors de la déclaration de politique générale, elle a face à elle des hommes qui font des blagues graveleuses après un déjeuner arrosé, pour reprendre ses propres termes. Dans son gouvernement, l'immense majorité sont encore des hommes. Dans les cabinets qui travaillent pour les ministres, c'est aussi encore à largement plus de 60%, 70% des hommes. Ses homologues à l'étranger sont encore largement masculins. Et donc, c'est peut-être tout le monde autour qui n'est pas prêt, mais c'est pas elle qui est en jeu. Des gens qui deviennent Premier ministre après avoir été 5 fois ministre et avoir exercé beaucoup de mandats locaux, il y en a beaucoup. Il y en a même qui y arrivent sans avoir été parlementaire.
On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Clara Luciani, Amour toujours. Texer, on va quitter le passé, parler du présent. Vous avez lancé l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. C'était créé en février dernier. Que faites-vous concrètement?
Ce qu'on a souhaité faire, c'était prolonger le mouvement MeToo politique que nous avions initié au mois de novembre 2021. Et en fait, nous, ce qu'on demande, c'est que les femmes, qu'elles soient d'ailleurs de droite comme de gauche, puissent s'investir en politique de la même façon que leurs collègues masculins. Et l'Observatoire, il a pour mission première de mettre en lumière les violences sexistes et sexuelles dans le monde politique et puis leur caractère massif et systémique. C'est un problème qui a un enjeu démocratique, en fait, puisque on est nombreuses, que nous soyons collaboratrices élues comme moi, mais élues ou fonctionnaires, ou même parfois des journalistes politiques, etc. En gros, les femmes qui vont croiser la route des hommes politiques à subir des commentaires, des remarques sexistes qui peuvent aller jusqu'au harcèlement sexuel, à l'agression sexuelle, voire jusqu'au viol. Et c'est un problème démocratique puisque tant qu'on n'aura pas permis aux femmes de s'épanouir dans le champ politique, eh bien en fait, on va finir par les dégoûter. Et quand les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants.
Quelle formule ! Ce sont les stratégies d'évitement, à force d'être harcelées, de connaître l'omerta, les femmes évitent la politique, elles préfèrent arrêter ?
Il y en a qui partent, et c'est vrai que l'exemple d'Edith Cresson, en un sens, c'est intéressant. Mmh. C'est une fin de carrière qui est très triste. Il y a d'anciens premiers ministres qui ont des parcours par la suite qui sont beaucoup plus florissants ou valorisés. Et donc, les femmes finissent par éviter la politique. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune militante, jeune collaboratrice, et quand certains nous disent « Ah bah oui, fais attention, évite tel ou tel, parce qu'il est un peu lourd, prends pas l'ascenseur avec lui, te retrouves pas seul dans une voiture avec machin », bah quand le machin en question, il est député, il est ministrable ou il est maire d'une grande commune, eh bien on va éviter de le croiser et on va éviter son propre parcours professionnel.
Les femmes journalistes politiques peuvent souffrir aussi d'une forme de harcèlement, puis il y a un rapport de domination. Une femme journaliste politique peut voir sa carrière gênée, voire pire si elle dénonce ce qui lui est arrivé. Par exemple, là c'est aussi un terrain de lutte pour vous ?
C'est un terrain de lutte et c'est vrai qu'elles se sont fait entendre, les femmes journalistes, en 2015. Elles ont été assez nombreuses, journalistes politiques, à signer une tribune qu'elles avaient intitulée « Bas les pattes », où elles racontaient comment tel ou tel député, aujourd'hui devenu ministre, proposait de leur donner une info qu'en échange d'un apéro. Leur faisait finalement des réflexions un peu tendancieuses. Une racontait comment un ministre avait tiré l'élastique de sa culotte lors d'un déplacement ministériel. Et donc oui, elles sont souvent confrontées aux mêmes difficultés que nous, on peut l'être en tant que collaboratrice élue.
Avez-vous le sentiment que les hommes politiques ont compris ou commencent à comprendre qu'on ne peut plus fonctionner comme avant, qu'ils ne peuvent plus fonctionner comme avant, que c'est interdit, qu'ils vont se faire traquer, que c'est normal ?
Je ne suis pas sûre que tous l'aient compris, mais un certain nombre commencent à avoir intégré le message. Néanmoins, c'est un combat qui ne pourra se faire qu'avec eux, puisque c'était à eux d'intégrer les changements de comportement, mais on est encore assez loin du compte, puisque les violences sont encore nombreuses, celles à en souffrir sont encore nombreuses, et puis il y a une question de symbole. Je crois que la récente nomination de deux ministres mis en cause pour des faits de viol dit encore beaucoup sur à quel point la parole des femmes victimes de violences est peu entendu, y compris au sommet de l'État.
La parité, venons-en, la parité c'est un outil important, c'est une bonne méthode en politique, sachant que parité quantitative ne signifie pas forcément parité qualitative.
C'est un bon outil, et c'est un bon début, et ça on le doit aussi en partie au combat mené par les femmes des partis politiques dans les années 60-70, et puis aussi à l'engagement de personnalités comme Edith Cresson et comme Simone Veil, et aussi au poids des institutions internationales, puisque la France était l'avant-dernière mauvaise élève de l'Europe sur ces questions-là dans les années 90. Après, c'est un outil qui a permis d'améliorer les choses. En 99, avant la loi, 93% des maires étaient des hommes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 80%, ce qui est encore énorme. À l'époque, il y avait 90% de députés hommes, aujourd'hui ils sont 60%. Donc on avance un petit peu, mais la parité, elle n'a pas été achevée. En effet, il n'y a pas de parité qualitative, dans le sens où si vous prenez la répartition genrée des postes, on va retrouver les adjoints aux finances, les adjoints à la voirie, les adjoints à la sécurité dans les villes. Ce sont des postes occupés par les hommes, alors que les femmes vont s'occuper de l'enfance, de la culture, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est une première étape, mais on est encore très loin du compte et il y a beaucoup, beaucoup de mesures de renforcement de la parité qui pourraient être prises.
Ça passe aussi par la sémantique. Hein. Juppé et les jupettes, par exemple. C'était quand même un slogan bizarre.
Et c'était un épisode catastrophique qui a fait beaucoup de mal aux femmes politiques de cette génération, puisque Juppé se targuait d'avoir un gouvernement avec un nombre record de femmes au printemps 95, elles étaient quasiment 28%. Et puis première crise politique au mois de novembre, remaniement, elles ne sont plus que 12%, ce qui montre que les femmes sont des fusibles. Et puis quand il y a des vrais problèmes, on va régler ça entre hommes.
Merci infiniment, Fiona Texer. Je rappelle le titre de votre podcast, Il n'y a pas mort d'homme. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Edith Cresson, première ministre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Merci à Arnaud Cailleux qui était à la technique aujourd'hui.